vous invite à prendre votre Bible avec moi et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13. Et pour cette étude, je n'ai que deux versets, le verset 5 et 6. Et je voudrais vous parler du contentement, un sujet très important. Voyant le contentement par rapport à la convoitise. Et ici, dans Hébreux 13, verset 5, nous lisons « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Lorsque nous regardons la définition du contentement dans le dictionnaire, c'est un état ou bien un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. C'est la satisfaction vive et durable. Quelqu'un qui est content et dans la joie. Donc voilà le contentement. Et puis, en contraste, il y a la convoitise. Donc nous voyons ces deux termes aussi dans la Bible, la convoitise. C'est le désir de posséder ce qu'on n'en a pas. Et c'est un désir charnel. Ce que la Bible dit ou bien explique comme la concupiscence. Nous voyons ça dans l'Épître de Pierre. Donc voilà les deux termes qui s'opposent. Le contentement et la convoitise. Ici, dans les versets que je viens de lire, les versets 5 et 6, nous avons l'exhortation, surtout à ceux qui sont enfants de Dieu, comme c'est écrit, de se contenter de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons vient de la main souveraine de Dieu. Et ce n'est pas seulement ici, mais nous voyons ce lien entre ces versets-ci et d'autres dans la Bible. Par exemple, nous avons déjà vu ça récemment dans Hébreux chapitre 12 et le verset 16 dans l'exemple d'Ésaü qui est appelé ici un homme impudique ou profane comme Ésaü. Il convoitait ce que lui n'appartenait pas. Et pour cela, il était appelé impudique ou bien profane. C'est écrit qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Voilà un exemple de la convoitise dans les Écritures. Et aussi dans l'Épître de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 3 et le verset 5, nous lisons « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. » Tous ces termes peuvent être synonymes de la convoitise. Mais notons à la fin du verset 5, dans Colossiens 3, 5, qui est une idolâtrie, qui dit, la convoitise dit l'idolâtrie, et c'est souvent lié aux termes comme la fornication ou bien l'idolâtrie, parce que ce sont des passions charnelles qui, en fait, sont en chacun de nous, même en tant qu'enfants de Dieu, puisque notre chair est toujours dépravé. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette instruction que l'auteur aux Hébreux nous donne ici dans ces versets, dans notre texte, Hébreux 13, 5 et 6. Donc, voyons l'instruction qui est donnée, surtout sur le contentement. C'est écrit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Nous sommes en train de voir ici, dans les premiers passages de ce chapitre, trois différentes sortes d'amour. Il y a, qu'on a vu déjà dans le verset 1, l'amour fraternel que nous devons continuer entre ceux qui sont enfants de Dieu à exercer cet amour fraternel. Voilà un amour de Dieu. Et puis, un amour envers ceux qui souffraient comme prisonniers. Et certainement, dans ce contexte, c'était ceux qui souffraient à cause de l'Évangile. Et donc, les frères sont encouragés à se souvenir de ceux qui souffraient à cause du nom et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous avons vu dans le verset 4, l'amour dans le mariage, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Tout cela, c'est l'amour qui provient de Dieu, que ce soit l'amour fraternel entre les membres du corps de Christ, l'amour pour ceux qui souffrent pour l'Évangile, et même qu'ils soient étrangers, cela veut dire d'autres races dans lesquelles Dieu a déjà des élus, que nous nous souvenons de cela, mais aussi en ce qui concerne le mariage. Parce que le mariage est établi par Dieu et donc doit être exempt, comme c'est écrit ici, d'impudicité ou bien d'adultère. Voilà les deux termes qui peuvent aussi être synonymes de la convoitise. Et puis, maintenant, nous voyons dans les versets 5 et 6 cette connexion, ce lien avec le contentement. En fait, que nous nous contentions de tout ce que nous avons sans avoir l'amour de l'argent. Il faut savoir que ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Il nous en faut pour vivre, pour payer les bons, les facteurs. Mais c'est l'amour de l'argent qui est la base de l'iniquité et de l'impudicité et de toutes sortes d'adultères, de convoiter ce que nous n'en avons pas. Voilà ce qui est le danger. Donc, que notre conduite soit sans convoitise. Voilà ce que l'auteur est en train de dire. En disant cela, je suis en train de vous dire quelque chose qui est contraire à notre nature et d'ailleurs même impossible pour nous de vivre de cette manière sans la grâce de Dieu, sans que l'Esprit de Dieu ne nous dirige, parce que notre nature et de toujours convoiter. Il faut savoir que lorsque Adam et Ève ont chuté dans le jardin, qu'est-ce qui était à la base de cette chute? C'était la convoitise. Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient manger de l'arbre de vie sans condition. Et il a planté cet arbre-là pour leur plaisir. Mais en même temps, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit de ne pas toucher au fruit de cet arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont convoité le fruit de cet arbre. Et je dois dire que c'est là que le péché est venu dans le monde. Ce n'était pas au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais comme c'est écrit dans le livre de Genèse, c'est au moment où ils ont vu que le fruit de cet arbre était bon à manger. Voilà, le péché provient du cœur. C'est là que le péché est entré dans le monde. Et cette convoitise qui a chuté ce monde dans les ténèbres et dans le péché, parce que tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés avec cette même nature. C'est ça qui pousse chaque être humain dans un sens mauvais, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais le fait que, oui, Christ a racheté son peuple, et ceux que le Père a choisis, c'est pour leur dette que Christ est venu mourir. Mais néanmoins, nous sommes toujours des pécheurs et toujours nous avons besoin de cet enseignement au sujet du contentement et contre la convoitise. Souvent, la convoitise et la cupidité, comme c'est écrit, sont excusées en disant « Oh, mais vous savez, nous sommes toujours des pécheurs. » Vous savez, pour être idolâtre, ce n'est même pas nécessaire de se prosterner devant un objet physiquement. Être idolâtre, il suffit de convoiter ce que Dieu lui-même n'a pas donné ou ordonné. Et c'est ça qui nous condamne. Alors, je sais que dans le monde, certains disent non, mais ce n'est pas la convoitise, c'est simplement l'ambition, c'est le désir de réussir, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Non, en fait, ce n'est pas autre que la convoitise. Chercher, désirer ardemment ce que on ne possède pas. C'est pourquoi l'auteur dit ici dans le verset 5, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Et si vous ne croyez pas que c'est un problème avec nous, que chacun de nous évalue maintenant, pendant que je parle, notre situation, est-ce que nous sommes satisfaits de ce que le Seigneur nous a donné? Je ne parle pas simplement du point de vue physique ou bien de manger, de boire, mais en ce qui concerne les richesses de ce monde, est-ce que nous pouvons vivre maintenant en se contentant de ce que nous avons sans convoiter ce que notre voisin a, mais simplement se jouir en ce que nous avons dans cette satisfaction vive et durable. Je dois dire que nos plaintes, lorsque nous nous plaignons, sont les preuves que cette convoitise reste toujours dans nos cœurs. Alors, c'est intéressant ici, quand c'est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent », de se livrer à quelque chose. Dans le grec, c'est un mot qui signifie un mouvement qui fait tourner le cœur ou bien les actions de la vie d'un sens au sens opposé. Et donc, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Cela veut dire, là, il ne faut pas tourner le regard à l'argent pour l'aimer, ou bien tourner face. Nous sommes en train de marcher dans un sens, mais d'un coup, nous sommes distraits et nous nous livrons à l'amour de l'argent. Cela signifie que déjà le désir réside en chacun de nous, si ce n'est la grâce de Dieu. Mais lorsque cet argent commence à briller dans le sens de l'or ou bien de l'argent, alors le cœur est tourné, l'œil se tourne pour regarder, mais qu'est-ce qui brille là? Donc, l'instruction qui nous est donnée, c'est qu'aucune action de nos membres ne se tourne après l'argent ou la richesse, avec un amour coupable et démesuré envers ses richesses, dans le but de poursuivre. Vous êtes en train de marcher dans un sens, et si le cœur est converti, le sens, on fait face à Christ et à ce qu'il a accompli par son œuvre à la croix, et maintenant nous nous tournons dos à Christ. Et dans ce sens, on ne peut pas servir Christ et en même temps le mammon, comme la Bible le dit. Donc, tout cela, c'est donné comme un ordre. Ne vous livrez pas dans un sens d'urgence, parce que tous ceux qui ont jamais poursuivi, encore, comme je dis, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. On en a besoin pour vivre. Mais ce qui est le mot clé là, c'est l'amour de l'argent. Qu'on ne soit pas envahi par cette convoitise qui est l'amour de l'argent. Dans Matthieu, chapitre 6 et le verset 25, nous lisons, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, ou le corps plus que le vêtement? Donc, voilà où la convoitise commence à avoir son allure. Lorsque nous nous inquiétons de ce que nous avons, ou bien plutôt de ce que nous manquons, que ce soit le manger ou bien le vivre, le vêtement, comme c'est écrit, notre vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ce sont les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans le verset 31, encore, nous ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Voilà les plaintes. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Encore une expression de la convoitise, les païens, ceux qui n'ont pas en eux l'Esprit de Christ, recherchent ces choses, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, ceux qui se donne nuit et jour à travailler, à œuvrer, et en allant dans tous les sens possibles pour racler et accumuler les richesses du monde. C'est ceux-là qui sont adressés ici dans Hébreux 13 et le verset 5 sous forme de l'amour de l'argent. Et ceux qui sont enfants de Dieu, alors doivent se contenter et ne pas être bousculés ou bouleversés par ce que le monde recherche, ou d'être un de ces pécheurs sauvés par la grâce de Dieu qui peut, comme Job, s'asseoir même à travers les épreuves. Ce n'est pas seulement quand tout va bien, mais lorsque tout va dans le mauvais sens, de pouvoir s'asseoir et, comme c'est écrit de Job, lorsqu'il a tout perdu, dans Job chapitre 1, le verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Oh, que le Seigneur nous donne ce contentement. Alors, ici dans Hébreux 13, cet ordre qui est donné, ce n'est pas une invitation à vivre de cette manière, mais c'est un ordre, un commandement. Contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement a beaucoup plus à voir avec ce que nous sommes à l'intérieur, dans nos esprits, qu'avec ce que nous avons. L'apôtre Paul a eu cette pensée en écrivant aux Philippiens, Si vous regardez dans Philippiens chapitre 4, et je sais que sans Christ, sans sa grâce, aucun de nous ne pouvait vivre de cette manière, mais ce sont des instructions qui sont adressées aux enfants de Dieu, que Dieu a élu pour qui Christ a donné sa vie en rançon et que l'Esprit maintenant a appelé à Christ. Comment est-ce que nous vivrions alors dans le monde? Dans Philippiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13, c'est écrit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Donc Paul lui-même, voyant les différentes situations dans lesquelles il se trouvait à cause de l'Évangile, même en prison, mais il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oh, que le Seigneur nous fasse cette grâce d'être content de l'état où nous nous trouvons. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, mais il dit aussi, je sais vivre dans l'abondance. Les deux états exigent la grâce de Dieu, de vivre dans l'humiliation pour ne pas se plaindre, mais aussi dans l'abondance pour ne pas se glorifier. Les deux ont un danger de convoitise. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout, notons, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors Paul, là, témoigne de la grâce de Dieu, de savoir vivre dans quelque état que ce soit, parce que nous savons que nous vivons et nous avons notre vie et mouvement en Dieu. Donc tout ce qui nous arrive provient de lui. Mais c'est grâce à Christ, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un a demandé un jour à un millionnaire qui s'appelait Bernard Baruch, et la question était de savoir combien d'argent faut-il pour qu'un homme riche soit satisfait. Et M. Baruch a répondu, juste 1 million de plus que ce qu'il a. Et c'est vrai, l'homme n'est jamais satisfait, même s'il a 1 million de francs ou bien de dollars, quelle que soit la dénomination, il en aura toujours besoin de plus. Telle est notre nature. Mais avoir un cœur satisfait de la portion de ce que Dieu lui-même nous accorde, même que ça soit la misère, c'est là que je voudrais encore revenir sur ce que Paul a dit. J'ai appris à être rassasié et avoir faim. Donc, pour quelqu'un d'être satisfait avec cette portion, que ce soit la misère, des choses terrestres ou bien de la bonté, soit plus ou moins, que cela nous suffit, sachant que c'est la grâce de Dieu qui est avec nous. Alors, le deuxième point que je voudrais souligner dans notre passage, revenant ici dans Hébreux chapitre 13, les versets 5 et 6, nous arrivons maintenant aux raisons du contentement en toutes choses. J'ai déjà touché à quelques-unes de ces raisons, mais nous en revenons maintenant. Premièrement, la première raison d'être content en toutes choses, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Nous voyons ça dans le verset 5, notons, car Dieu lui-même a dit. Donc le contentement est basé sur la fidélité de Dieu, envers ses enfants et ses promesses de ne jamais nous abandonner. Donc, ça, c'est la raison primordiale d'être content avec ce que nous avons, parce que Dieu lui-même l'a dit. Nous voyons cela dans d'autres endroits, dans cette épître, mais c'est une manière de nous rappeler que ce que nous sommes en train de lire ici n'est autre que la parole de Dieu. Oui, on a l'habitude de les appeler les Écritures, mais ce sont des hommes que Dieu a appelés et consacrés, qui ont écrit ces paroles en sorte que ce que nous lisons n'est pas simplement les paroles des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première raison, la raison primordiale pour laquelle nous devons considérer ce qui est écrit ici. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et ici, dans ce passage, qui suit, lorsque c'est écrit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », l'auteur est en fait en train de citer un passage dans la loi, dans l'Ancien Testament. Si vous regardez avec moi dans Deutéronome, chapitre 31 et le verset 6, c'est ici que c'est écrit, c'est ici que Dieu lui-même l'a déjà dit. Il dit dans le verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, c'est-à-dire devant les ennemis, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Alors, voilà ce qui est bien pour nous de considérer aussi, que même ceux à qui l'auteur aux Hébreux écrivait au premier siècle avaient besoin d'entendre cette promesse de Dieu, nous devons savoir que c'est une promesse qui provient d'un Dieu fidèle, ce qu'il était et a toujours été pour ses enfants dans le passé, il continue à être pour ses enfants qui suivent. Et c'est pourquoi nous allons voir ça dans le verset 8, dans Hébreux 13, la prochaine fois. Jésus-Christ, le même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change point. C'est pourquoi nous pouvons nous fier à sa parole et à ses promesses. Et c'est ce qui est le fondement même du contentement. Le contentement n'est pas quelque chose de psychologique que nous devons maintenant susciter en nous-mêmes par nos efforts. Non. C'est fondé sur la promesse de Dieu dans sa parole. Dans ces moments où nous trouvons inquiets, parce que voilà les choses qui poussent le mécontentement ou bien la convoitise, nos inquiétudes, mais c'est dans ces moments-là que nous devons alors nous asseoir et ouvrir cette parole et encore nous souvenir, nous rappeler de qui Dieu est et comment il promet être avec ses enfants, quelle que soit leur situation. Oh, combien c'est bien de lire ces paroles qui datent depuis des milliers d'années, parce que nous avons lu ça dans Deutéronome chapitre 31 et le verset 6, mais c'est répété encore dans le verset 8 de Deutéronome 31. L'Éternel marchera lui-même devant toi. C'est ce que le berger souverain fait. Il marche devant ses brebis. Et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Regardons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il est venu dans ce monde. Il a marché parmi les mêmes ennemis que nous devons endurer, mais sa confiance était toujours dans son Père. C'est pourquoi il est notre substitut, parce que lui-même, il a fait face à toutes les épreuves que nous ne pouvons jamais imaginer sans le péché. Mais comment est-ce qu'il a vécu sa vie en sachant que son Père ne pouvait jamais l'abandonner? Et c'est pour cela qu'il n'a pas eu peur lorsqu'il a vécu sa vie sur cette terre comme substitut. Oh, c'est bien de l'entendre. Je ne t'abandonnerai jamais. Et donc, nous ne serons jamais délaissés. Nous allons voir ici, c'est intéressant, dans ce passage, quelqu'un a noté que dans le grec, il y a en fait 5 négatifs que nous trouvons ici. C'est comme il disait, je ne te quitterai point, dans la première partie. Voilà le premier négatif, je ne te délaisserai point. Deuxièmement, je ne t'abandonnerai point. Et dans le français, dans la traduction du grec, les autres négatifs ne sortent pas, mais dans la manière que c'est écrit dans le grec, il y a 3 autres négatifs qui sont dans l'original. Je ne te délaisserai point. Vous voyez, le mot point encore dans le sens négatif. Je ne t'abandonnerai point. C'est pour dire, une autre manière de le dire, non jamais. Voilà le sens de ces négatifs ici et combien cela doit être un encouragement pour nous. Donc ça c'est la première raison de ne pas s'inquiéter et de ne pas être mécontent, quelle que soit la situation. Parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Mais la deuxième raison que nous avons ici comme motivation de ne pas s'inquiéter et de se contenter à ce que nous avons dans le verset 6, c'est donc, notons, avec assurance. Ce mot est une autre manière de dire hardiment, avec assurance. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et voilà encore, c'est une citation que nous voyons ici des psaumes. Dans le psaume 118 et le verset 6, par exemple, nous lisons ce passage que l'auteur aux Hébreux a cité. Verset 6, psaume 118. L'Éternel est pour moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la manière que Paul l'a écrit dans Romains chapitre 8. L'Éternel est pour moi. Et donc, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Quand c'est écrit, le Seigneur ou bien l'Éternel est pour moi. Ici, dans Hébreux 13, c'est cité, le Seigneur est mon aide. Mais c'est une interpellation de cette phrase, le Seigneur est pour moi. Comment est-ce qu'il est pour les enfants qu'il a? Premièrement, dans l'élection, le fait qu'il les a choisis depuis l'éternité, de toute race, de toute langue. Le choix, Dieu l'a déjà fait. Donc, cela prouve qu'il était pour ceux qu'il a choisis. Autrement, il ne les aurait jamais choisis. Mais deuxièmement, il est pour Non, dans le sens de que Christ a subi toute la condamnation, tout le jugement, toute la colère de Dieu à la place de ceux que Dieu a choisis. Donc, Dieu est pour ses enfants, non seulement dans l'élection, mais dans la rédemption, dans leur rachat, dans leur justification, les déclarer justes devant lui à cause de l'œuvre de Christ. Mais troisièmement aussi, nous savons qu'il est pour, et c'est comme ça qu'il est venu en aide à ses enfants, c'est qu'il ne les laisse pas dans les ténèbres, mais par l'Esprit, il les appelle, il les attire à Christ. Donc, sachant tout cela, voilà la raison, donc, pour laquelle nous ne devons pas nous décourager. Revenant dans mon texte, il dit, quand il dit, c'est donc avec assurance, c'est avec persuasion. Il est en train de dire, nous puissions, c'est ainsi que nous puissions dire ardemment, sans aucune hésitation ni doute. Voilà le sens du mot assurance. Dans tous les temps, quel que soit l'état où nous nous trouvons, même si c'est un besoin menaçant, il faut dire que vivre dans ce monde, ça c'est notre vie de tous les jours, il y a toujours des menaces. Mais dans tous les temps où nous savons à peine d'où viendront les provisions de nos besoins, néanmoins, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu et nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et dans cela, être assuré, voilà le mot assurance, persuadé qu'il ne nous laissera jamais. Ou souffrir comme c'est quelque chose que nous devons traverser seul. Dans les faits qui se passent sous les agissements providentiels, cela veut dire le vent ne souffle pas si ce n'est pas la main du Seigneur qui fait souffler le vent. Rappelons-nous de cela. Mais même dans ces moments, il y a ici un motif de confiance à ce sujet. Et il y a pas mal de gens dans le monde qui subissent ces choses, mais qui n'ont pas cette bénédiction du Seigneur comme ceux qui sont enfants de Dieu, parce que le Seigneur est avec eux. Oh, de pouvoir dire, le Seigneur est mon aide. C'est une autre manière de dire, le Seigneur est avec moi, dans sa grâce, dans sa providence, en toutes choses. À tel point que je peux me reposer avec confiance en tout ce qu'il ordonne. Alors, nous savons que nous sommes des créatures de Dieu. Donc, aucun homme ne peut faire plus ou moins de ce que Dieu lui-même ordonne. Et c'est sur cette base, alors, nous nous confions en lui, sachant que s'il nous a aimés et nous a choisis, et il a envoyé son fils payer notre dette. Qu'est-ce que nous allons craindre alors? Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Souvent, nous craignons ce que les hommes autour de nous, dans leur méchanceté, peuvent peut-être nous faire, mais aucune raison de craindre. Parce que rien ne touche à un des enfants de Dieu, si ce n'est ce qui vient de sa main. Alors, pour cela, nous nous confions à lui. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.